tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission de Bonjour Jérusalem avec en régie Simon, comme d'habitude, et aussi Elisabeth qui m'accompagne dans cette émission. Bonjour Elisabeth, comment ça va ce matin ?
Eh bien, tout va bien Christine, merci beaucoup. Et je rappelle que Bonjour Jérusalem est toujours conçu par vous. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Christine ?
Eh bien, revenant d'un voyage à Malte, on a parlé d'un problème de l'eau. Et je voudrais également parler d'un problème de l'eau en Israël-Palestine.
Ah bon ? Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il y a un rapport d'information qui a été établi par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en France et qui a été remis en décembre 2015 par un député français qui a provoqué un vrai tollé général en Israël.
Bon, vous pouvez nous en dire plus.
Oui, oui, bien sûr, puisque ce rapport décrit la question de l'eau et serait, selon toujours ce même rapport, révélatrice d'un nouvel apartheid, c'est ainsi qu'on l'a appelé, au Moyen-Orient.
Oh, c'est quand même dur, hein, très fort. Pourquoi avoir utilisé ce mot apartheid ?
Eh bien, je pense qu'il a été utilisé en toute connaissance de cause, hein, puisque ce député socialiste français a employé ce mot après avoir fait une visite avec d'autres collègues français sur les territoires du Liban, de la Jordanie, d'Israël et aussi des territoires palestiniens.
Alors en fait, sur place précisément, loin des bureaux de l'Assemblée nationale, Gidon Bromberg, directeur israélien de Friends of the Earth Middle East. Oh là là, excusez-moi.
Oui, c'est une ONG. Pour c'est une ONG qui rassemble effectivement les Jordaniens.
Voilà, Alors, Israéliens, Palestiniens, ouais. Pour la promotion de la paix et du développement durable dans la région. Alors donc, ce Gidon Bromberg a évoqué la question historique de l'eau pour, dans la région, que selon lui, Israël ne partage pas l'eau de façon équitable avec les Palestiniens. Les Israéliens considèrent l'eau comme une question relevant de la sphère militaire, ce qui rend presque impossible les débats ou les projets innovants.
Il faut bien comprendre qu'ils ont une vision un petit peu bizarre du partage de l'eau. Il ne faut pas oublier non plus, Élie, que la question épineuse de l'eau fait partie des accords d'Oslo de 1995 qui n'ont pas été renégociés depuis 2000, surtout en raison de l'éclatement de la seconde intifada. Ah.
Alors en fait, si j'ai bien compris, c'est sur la forme et l'utilisation du mot « apartheid » que le rapport est questionné, n'est-ce pas ?
Tout à fait, mais aussi parce que pour les Palestiniens, la problématique du partage de l'eau se traduit de façon différente en Cisjordanie et à Gaza. En fait, il s'agit tout d'abord d'une question géographique. Israël est situé en aval par rapport à la Cisjordanie, tandis que Gaza est situé, lui, en aval par rapport à Israël.
Ah, d'accord. Alors donc, la définition du prélèvement des eaux a été un point crucial des accords d'Oslo 2. C'était le numéro 2. Et qui encadre le forage des sols.
Voilà. Oui, parce qu'en Cisjordanie, tout forage doit faire l'objet d'une autorisation du Joint Water Committee, un comité mixte composé d'Israéliens et de Palestiniens. Et comme le souligne justement Stéphanie Oudot, qui est une adjointe au département eau et assainissement à l'Agence française du développement, eh bien, elle dit que dans la pratique, ce sont surtout les Israéliens qui décident. Et en général, c'est à la faveur des demandes israéliennes et non pas palestiniennes. Mmh. Elle y a travaillé donc pendant 7 ans comme chef de projet. Donc elle sait de quoi elle parle.
Exactement, de quoi s'agit-il. C'est donc un mode consensus qui donne de facto un pouvoir de veto à Israël.
Effectivement, évidemment, oui. Élie, il faut savoir que les autorisations doivent être approuvées par l'armée israélienne, toujours très réticente à donner cet accord. Hein. On se demande pourquoi d'ailleurs, hein, puisque déjà au départ, ils autorisent l'eau comme un partage et une stratégie militaire. Donc évidemment...
Alors expliquez-moi, Christine, comment se passe l'utilisation de l'eau, alors ?
Eh bien, alors, les 450 000 colons israéliens en Cisjordanie utilisent plus d'eau que 2 millions 3 de Palestiniens. Vous voyez la différence, comme le relève ce fameux rapport. Et les Palestiniens utilisent, eux, environ 70 millions de mètres cubes d'eau contre 222 millions de mètres cubes pour les colons israéliens. Alors, il faut mentionner également un détail qui a, je crois, son importance. C'est la destruction systématique par l'armée israélienne des puits construits spontanément par les Palestiniens. Alors, les puits sont souvent détruits et s'il n'y a pas eu de permission, évidemment, par l'armée israélienne.
Ah bon, d'accord, ça doit être assez difficile.
Oui, j'imagine.
Quand même, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Alors, comment ils font alors ?
Alors, bien sûr, face à l'absence de ressources, les Palestiniens doivent acheter de l'eau municipale, qui est bon marché, mais quand même limitée. Mm-hmm. Ils se tournent alors vers l'approvisionnement privé. En fait, la Banque mondiale indique d'ailleurs que les Palestiniens vivant en Cisjordanie dépensent 8% de leurs revenus en eau et pour l'eau non municipale. Et comme il n'existe pas de contrôle, l'eau peut être contaminée avec les conséquences que l'on connaît, les diarrhées, les douleurs abdominales, etc., les risques des maladies évitables pour les enfants.
C'est effrayant quand on a l'impression de se retrouver, au Moyen-Âge quand même, parce que était moins sale à l'époque, l'eau était moins sale, mais vraiment une période...
Ah oui, c'est un problème récurrent
qu'on a peut-être
depuis...
connu, mais voilà, tout à fait.
Oui, mais c'est récurrent depuis des années, il ne faut pas l'oublier, cette histoire-là.
Priver les gens d'eau, c'est quand même invraisemblable.
C'est terrible, oui.
Alors, qu'en a-t-il de l'assainissement ?
Ça découle effectivement. Hein, les eaux de Cisjordanie qui s'écoulent vers Israël. On sait qu'il n'existe qu'une seule station d'assainissement, enfin on sait, en Cisjordanie, à Ramallah, et les besoins sont évidemment considérables. Les eaux usées s'écoulent ainsi vers Israël, qui accuse les Palestiniens de ne pas agir contre la pollution de l'eau. Mais c'est donnant-donnant, il me semble.
Oui, tout à fait. oui, exactement. Enfin, ça serait pas mal de trouver une solution. Alors on peut comprendre aussi que du fait de la domination israélienne, les Palestiniens ne sont pas encouragés à traiter les eaux, qui sont donc contaminés.
Évidemment, mais oui, puisque entre 30% et 40% de l'eau sont perdus par les fuites non réparées dans les canaux côté palestinien.
Mmh. Ben oui. Mais alors, c'est vraiment une situation paradoxale. Parce que je me dis, il aura mieux valu, au lieu de détruire ces puits qui leur apportent de l'eau, au moins les obliger en échange peut-être de travailler sur les canalisations.
Je ne sais pas, ne serait-ce qu'on sait que la vie, l'eau, c'est la vie et que c'est important pour la survie. Hein.
En tout cas, donc, c'est assez paradoxal tout ça.
Oui, elle est surtout paradoxale, effectivement, en l'absence de coopération, comme je viens de le dire, avec les Palestiniens. Et bien sûr, on sait qu'Israël dessert ses propres intérêts ainsi. Hein.
Alors, que fait alors Israël pour ses eaux usées ?
Eh bien, pour les gérer, ils construisent des stations d'épuration et réutilisent ensuite ces eaux pour leur agriculture.
Ah, comment cela se passe-t-il en Palestine, puisque l'Israël se trouve en amont ?
Eh bien, faut dire qu'à Gaza, c'est encore pire, hein, puisque la qualité de l'eau est absolument épouvantable. On sait que la mer, Gaza se trouve en bordure de mer, mm-hmm. et que c'est quand même la mer est déjà...
Et pourquoi c'est si épouvantable, la qualité de cette eau ?
Parce que les milliers de Palestiniens peuvent creuser des puits librement, et c'est de l'eau salée qui sort de terre.
Hein. Ah ben oui.
Les Gazaouis ne peuvent plus boire de l'eau du robinet, et seuls 5 à 10% de l'aquifère correspondent aux standards de qualité de l'eau. Vous vous rendez compte que c'est vraiment très très peu. Hein.
Eh bien, la prochaine fois, quand je vais boire un verre d'eau...
Oui, on aura une pensée.
Ouais, hein. Même deux. Hein. Alors donc, avant de revenir sur un autre sujet, nous allons faire, Christine, une courte pause musicale, si vous êtes d'accord, puisque vous êtes le chef de l'émission, donc je demande la permission.
Mais
je
crois qu'il serait temps merci, Elisabeth, pour ce qualificatif.
De laisser passer une petite pause musicale. Nous nous retrouvons de nouveau sur Radio Grand Ciel. Vous écoutez notre émission. Bonjour Jérusalem. Tout à l'heure, on parlait des problèmes d'eau en Palestine. Et là, Christine, vous allez peut-être parler d'un autre sujet.
Oui, alors on va parler d'un sujet en fait dont on parle peu, c'est le cas de le dire. Hein. C'est le travail des Palestiniens dans les fameuses colonies israéliennes de Cisjordanie.
Alors c'est bien vrai parce que on n'en sait pas. Enfin moi personnellement je ne connais pas du tout ce sujet. Donc vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, Christine.
Oui. Alors eh bien il y a beaucoup de travailleurs palestiniens qui se sont vus refuser l'accès aux colonies israéliennes de Cisjordanie.
Ah bon, ah oui. Et où se trouvent ces colonies israéliennes exactement?
Voilà. Alors d'une part il y en a une à Othniel, une colonie de l'extrême sud de la Cisjordanie. Et à Tekoa, une ville juive située entre Hébron et Bethléem. Du coup, les autorités israéliennes ont donc décidé de fermer l'accès de toutes les colonies aux Palestiniens qui y travaillent.
Ah bon, mais il y a combien de personnes qui y travaillent?
Il y a quand même environ, on a comptabilisé 30 000 personnes. Hein. C'est bien simple d'ailleurs, le lendemain de l'interdiction... partiellement levée. Elle est quand même restée en vigueur hein, pour les fameuses colonies des régions de Bethléem, Hébron, Naplouse et Ramallah.
Ah oui, hein,
donc malgré tout, 30 000 personnes sont concernées par la fermeture de l'accès à ces colonies.
Voilà, l'interdiction de travailler, ouais, n'est-ce pas? Mais qui sont ces Palestiniens employés dans ces colonies israéliennes? Pourquoi? Et dans quelles conditions ils travaillent-ils quotidiennement?
Oui, ah ben, écoutez, bien souvent ce sont des jeunes hein, qui souhaitent poursuivre leurs études, mais comme ces fameuses études ne sont pas gratuites, ils doivent travailler. Mm-hmm. C'est le cas de Samir, un exemple, 21 ans, qui a dû travailler 2 ans et demi en tant qu'ouvrier dans une usine agroalimentaire pour payer ses études en fac. Un travail d'autant moins plaisant que son employeur n'était pas palestinien mais israélien.
Ah, et où se trouve cette usine?
Alors, elle se situe près de Jérusalem, à Mahalé Adumim, qui est la plus grande colonie israélienne de Cisjordanie. Enfin, il précise qu'à 280 shekels, c'est-à-dire environ 65 euros, la journée de 2 heures, 12 heures, Samir, il ne pensait pas qu'il était à plein, puisqu'il avait un travail. Hein. Bah, alors, c'est vrai que s'il s'était trouvé en région palestinienne, un poste similaire, l'employeur palestinien l'aurait certainement moins bien payé.
Moins payé, puis là, je fais un rapide calcul, ça tombe quand même aux alentours de 2000 euros par mois. C'est pas trop mal.
C'est pas mal.
Ça serait pas trop mal.
Oui, la journée, mais 12 heures, hein, 12 heures de travail quand même.
Du coup, je pense qu'il y a un fort taux de chômage.
Oui, oui, il y a un énorme taux de chômage de 20%. La Cisjordanie voit depuis, bien sûr, de longues années, sa main-d'œuvre filer vers Israël voisin. Mais comme les permis de travail sont de plus en plus difficiles à obtenir, ce sont désormais les colonies israéliennes qui attirent ces demandeurs d'emploi. Ils sont environ 30 000 à se rendre tous les jours en zone C, c'est-à-dire le territoire palestinien contrôlé par Israël, avec un permis de travail, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans.
Alors, comment s'explique ce nombre de travailleurs palestiniens?
Eh bien, un œil extérieur, hein, un étranger, aurait vite fait de déceler la dimension vicieuse de ce système, c'est-à-dire l'occupation israélienne favorise le chômage des Palestiniens, ce qui pousse ces derniers à accepter de travailler dans les mêmes colonies, alimentant ainsi l'occupation israélienne.
Et alors, n'ont-ils pas d'autre choix?
Bien sûr, hein, je pense que la plupart de ces 30 000 employés qui travaillent dans les 20 zones industrielles israéliennes de Cisjordanie, dans les principaux secteurs d'activité qui sont le textile, la sidérurgie et le bâtiment. Certains aussi de ces travailleurs palestiniens travaillent aussi dans les services, comme les supermarchés israéliens. Rami Lévy, présent dans les supermarchés. Ah oui, alors les supermarchés israéliens, c'est Rami Lévy. Hein,
c'est leur Intermarché à eux. Quoi.
C'est leur Intermarché hein, qu'on trouve dans les 4 colonies principales.
On ne doit pas faire de publicité. Pardon. Alors, qu'en est-il du secteur agricole, puisqu'on vient d'évoquer les zones industrielles?
Eh bien, alors, dans le secteur agricole, on peut estimer à 5000 Palestiniens qui travaillent en zone C, sans permis, dans ces fameuses exploitations de la vallée du Jourdain, ce qu'on appelle aussi le grenier agricole de la Cisjordanie. Alors, ces exploitations sont situées à l'extérieur des enceintes clôturées des 37 colonies. Les fermes ne nécessitent pas de permis d'entrée et parmi ces travailleurs clandestins, on trouve des centaines d'enfants dont le nombre augmente à la saison des récoltes.
Alors, on utiliserait donc des enfants pour ce travail?
Et oui, malheureusement, c'est aussi la situation actuelle qui malheureusement le veut, puisque l'association Human Rights Watch a d'ailleurs publié un important rapport qui dénonce le travail des enfants dans ces colonies. La plupart ont arrêté l'école pour aller travailler à plein temps, puisqu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour eux.
Mais que dit en fait cette ONG ?
Eh bien, Hannah Zohar, qui est chargée de la protection de ses travailleurs à l'ONG israélienne Kav Lav Oved, précise que le droit du travail israélien prévoit des protections sociales pour ces Palestiniens. Mais ces mesures sont évidemment pas toujours appliquées, parfois pas du tout appliquées.
Ouais. Il y a des abus, j'imagine. Hein.
Bah oui, et puis les abus reposent sur la faiblesse des travailleurs qui, on le rappelle, vivent sous l'occupation israélienne. Certains craignent de perdre leur travail. S'ils se plaignent, d'autres ont fini par se convaincre qu'ils ne méritaient pas plus d'argent. Vous voyez dans quelles conditions on peut travailler.
C'est effrayant tout ça. Hein.
Effroyable, oui.
Cela veut-il dire alors que ces travailleurs palestiniens s'accommodent de cette situation ?
Par obligation, bien sûr. Hein. Ils sont nombreux à ne pas gagner le salaire minimum israélien qui est de 164 shekels par jour, c'est-à-dire 38 euros par jour, hein, ni à être indemnisé autant qu'il le devrait être pendant un arrêt de maladie. Il y a aussi l'épineuse question des accidents du travail.
Ah, ça, vous voyez forcément, ouais. C'est certainement pas très bien traité non plus.
La plupart du temps, en cas d'accident du travail, ces ouvriers sont emmenés dans des hôpitaux palestiniens et non israéliens, je le répète, de meilleures tenues alors qu'ils en ont pourtant le droit et qu'ils sont même couverts par l'assurance que souscrivent les employeurs. Mais bien souvent, ils l'ignorent et se font soigner dans un hôpital à moindre frais pour les employeurs et qui n'ont pas le même matériel pour des soins plus appropriés, plus approfondis.
Alors, ça ne doit pas être une panacée pour ces travailleurs palestiniens que de travailler dans les colonies.
Bien sûr, effectivement, on ne peut pas dire que pour un jeune Palestinien, travailler dans une colonie est un rêve d'enfance. Hein. Mais heureusement, il y a des histoires qui finissent bien pour certains de ces jeunes.
Alors, on en parle ?
Oui, je veux bien. J'ai un exemple à vous donner. Hein. C'est le cas de Lafis Wafta, qui a passé 5 ans à ramasser des tomates et des concombres dans la colonie de Meola, dans le nord de la vallée du Jourdain. En fait, il ne cherchait pas à changer de travail, hein, mais la vie, le hasard, en a décidé autrement. Il a mis sur sa route un autre jeune, Rachid, qui est membre de l'association Jourdain Valley Solidarity, qui était justement en train de monter une pièce de théâtre. Et alors, cette pièce racontait la vie dans la vallée du Jourdain, l'éducation, la santé et bien sûr le travail dans les colonies. Et voilà, la vie de la fille a changé. Et depuis plus d'un an, la pièce est donnée dans la vallée du Jourdain, mais aussi dans les principales villes de Palestine et de Jordanie.
Donc, il est devenu un artiste.
Voilà, c'est
et
devenu
voilà,
un artiste.
Dénouement plutôt surprenant et heureux. Maintenant, avant de poursuivre notre émission, Christine, je crois qu'on va faire une nouvelle pause musicale. Nous nous retrouvons donc sur Radio Grand Ciel avec Simon à la technique et Christine qui nous raconte tout ce qui se passe en Israël dans cette émission Bonjour Jérusalem. Alors peut-on revenir encore sur la situation des immigrés en Europe ?
Oui, bien sûr, c'est une problématique qui nous touche beaucoup, hein, c'est un vaste sujet. Les Balkans, à la frontière gréco-macédonienne, un flot de réfugiés marche le long de la route pour tenter de rejoindre l'Allemagne. Ça, ce sont des photos que nous avons vues, des reportages hein, qui prouve ce que je dis.
Ah oui, parce que la Macédoine et la Serbie ont en effet adopté la politique de refus depuis le mois de novembre 2015.
Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les SI, alors on va décrypter, les S, les Syriens, les I, les Irakiens et les A, les Afghans, qui sont en possession d'un document donc délivré par les Grecs attestant de leur nationalité, peuvent traverser les frontières. Ceux qui ne sont pas ni Syriens, ni Irakiens, ni Afghans, qui sont en fait des Marocains, des Pakistanais, des Iraniens, des Somaliens ou bien des Libyens, sont arrêtés, rejetés, chargés dans des bus et transférés immédiatement à Athènes. Pour eux, le voyage se termine ainsi.
Alors, pourquoi cette discrimination ?
Mais à vrai dire, je ne sais pas, mais je vais tenter d'y répondre. En violation de l'article 3 de la Convention de Genève, qui précise que les États contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine, c'est en fait la police des frontières qui décide du droit d'asile, droit individuel de chaque citoyen, et ouvre ou ferme la frontière en fonction des nationalités mentionnées sur les documents.
Alors, vous parlez de Eidomeni ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est
Eh bien, c'est une ville grecque qui marque le début de la route des Balkans, près de la frontière macédonienne, qui était jusqu'en novembre un véritable camp mis en place par les migrants en transit. Eh bien, depuis, et afin d'éviter des épisodes de violence commis par des réfugiés déboutés, elle a été volontairement transformée par le gouvernement grec en un simple poste-étape pour les réfugiés qu'on retrouve sur la route des Balkans. On y trouve une tente pour les soins médicaux confiée à l'ONG française Médecins du Monde, un point pour se restaurer pour l'organisation Praxis et enfin une tente gérée par des bénévoles indépendants où on distribue des vêtements. Et voilà, voilà comment se présente
le village
de Eidomeni.
Cette très forte migration dure depuis maintenant plusieurs mois, deuxième année que c'est devenu très très important.
Oui.
Et on ose imaginer ce que ces migrants peuvent traverser comme galère. C'est un flux continu de vie humaine en fuite d'un douloureux passé et à la recherche d'un avenir décent pour eux-mêmes et leurs enfants.
Il faut savoir aussi, Élie, que bien souvent ce sont des hommes, des femmes et des jeunes mères, des personnes âgées aussi, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, des enfants souvent abandonnés, seuls, de tous âges. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, pendant toute la période de l'année 2015, le nombre d'arrivées à travers la Méditerranée a été de plus d'un million de personnes, dont plus de 3700 morts disparus en mer. Ce sont des chiffres provisoire pour l'instant, parce que depuis, ça a dû augmenter. Et il n'y en a seulement que 850 000 qui ont débarqué en Grèce et environ 150 000 en Italie.
Mmh. Une note joyeuse dans ce
oui, on va
dans
changer
un monde
un peu,
cruel.
Oui, on va changer un peu de registre, parce que c'est
oui,
vrai qu'on...
Oui, parce que je pense en plus, je crois qu'on n'est pas vraiment au courant exactement de
mais
ce
on
qui
sait
se
pas
passe.
Vraiment ce qui
on
se
sait
passe,
très bien qu'à l'origine, ça a démarré pour venir en aide pour ces pays en guerre comme la Syrie. Et malheureusement, je pense qu'on a un peu oublié tous les chrétiens là-dedans,
et
qu'on n'a pas trop...
C'est-à-dire qu'on a ouvert les frontières.
On a ouvert les frontières et du coup,
rapidement,
les gens qui vivaient mal, ils ont dit...
Et puis maintenant, on les ferme.
Et bien voilà.
Voilà, donc...
Difficile tout ça.
C'est vraiment difficile, oui.
Alors, on va donc changer de sujet.
Pour une note joyeuse, tiens, on va parler d'un court-métrage de 14 minutes de Basel Khalil qui s'intitule Ave Maria, qui a été projeté le 26 janvier pour la première fois Jérusalem-Est au centre Yabous. Le film de Khalil n'aborde pas le conflit israélo-palestinien, mais choisit de raconter le côté humain du conflit avec beaucoup d'humour et de dérision. En fait, c'est le premier film palestinien à être nommé aux Oscars. Le compte à rebours a commencé avant la remise des prix le 28 février.
Ah bon, d'accord, bon. Alors, on verra les résultats.
On va se tenir au courant. Et alors, vous...
Ave Maria, cette histoire
d'Ave
Maria, là.
Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une collision, véhicule, de voiture, on va parler de voiture, entre une famille de colons juifs et
une
petite
collision.
Et une petite communauté de sœurs carmélites, ça se situe en Cisjordanie. En fait, le début de l'histoire se déroule comme ça. Cinq religieuses qui ont fait vœu de silence ont emprunté des raccourcis sur des routes palestiniennes. Et en fait, elles tombent sur une famille juive qui, elle, vient d'avoir un accident de voiture peu avant la tombée de du Shabbat.
Ah, ça devient difficile. Alors, que se passe-t-il?
Eh bien, on imagine un peu la situation.
L'un ne doit pas parler et l'autre ne doit rien faire.
Entre le Shabbat qui interdit l'usage du téléphone pour appeler au secours.
Ah, c'est ça, voilà.
Selon les prescriptions juives, et les sœurs carmélites qui, elles, ont fait vue de silence. Alors évidemment, dans ce cas-là, il y a la panique qui s'installe.
Ça doit être assez cocasse. Ça doit être assez cocasse. Ça me fait penser à un film de Bourville qui rencontre une autre voiture. C'est ça.
Oui. Alors, donc, le spectateur est mis en garde par le panneau au bord de la route « Danger mine ». Et il se trouve ainsi embarqué dans un récit totalement absurde. Lorsque les règles des deux parties en présence sont confrontées, mais elles se révèlent être de peu d'importance. Parce que qu'est-ce qui
alors,
est important, hein?
Comment s'exprime donc cette absurdité?
Ah ben alors, voilà, justement, ça s'exprime par la langue choisie pour la famille juive, c'est frappant, la langue dominante des premières minutes du film, palestinien et l'hébreu, automatiquement. Ah. Quant à la mère supérieure du couvent, qui est jouée par une actrice de confession musulmane, il s'agit de Houda Al-Imam, actrice jérusalémite, qui explique qu'ayant fait sa scolarité chez les sœurs de Sion, puis à l'école Schmitt à Jérusalem, elle a appris tout naturellement leur mode de vie. Bon, on parle là des sœurs carmélites.
Voilà. Alors, ce qui veut dire que malgré cette différence de langue et de confession, ils ont réussi à se comprendre.
Certainement avec des gestes, hein, peut-être, je ne sais pas. Enfin ouais. Bon, je n'ai pas vu le film. Et d'ailleurs, le réalisateur du film, hein, qui est originaire de Nazareth, précise que sur la scène politique, palestiniens et iraniens sont toujours considérés comme des fous. Nous avons appris à trouver notre place et je pense que de la souffrance émerge une forte narration. Il est très important pour nous de prouver que nous sommes normaux, bien sûr. Hein, ils ont leur propre récit où il y a des moments de bonheur, de tristesse, mais comme partout ailleurs, hein, dans le monde.
Alors, au final, Ave Maria, c'est juste un doux délire sur une situation qui n'en apparaît que plus absurde. Alors, il y a d'autres nouvelles?
Oui, bien, le 29 janvier donc, de cette année, des inscriptions vieilles de 1700 ans ont été trouvées au nord d'Israël. Il s'agit de 3 inscriptions funéraires, 2 en araméen et un autre en grec, découvertes à Zippori, dans la région de Galilée, en Israël.
Alors, que disent ces inscriptions?
Eh bien, ces épitaphes reflètent la vie quotidienne des Juifs de Zippori et leur monde culturel. L'inscription grecque la plus facile à comprendre porte le nom de José. Les inscriptions en araméen demandent plus de temps pour les élucider. En fait, ces dernières mentionnent des rabbins enterrés dans le cimetière à l'ouest de Zippori. Cependant, le nom des rabbins reste quand même à déchiffrer.
Alors, Christine, que peut signifier le titre de rabbi?
Ça reste encore vague, hein, pour les habitants de Zippori, car les chercheurs sont incertains quant à la signification de ce terme rabbin à la période où Rabbi Yehuda Anassi, Judas le prince, résidait à Zippori.
Alors, peut-on supposer que des Juifs de diverses régions de Galilée soient enterrés à Zippori pour être à proximité de ce rabbin?
Je ne sais pas, à vrai dire. Hein. L'une des inscriptions en araméen se réfère à un certain Tibérien, ce qui en ferait le deuxième cas connu d'une personne de la ville de Tibériade à être enterrée dans le cimetière de Zippori.
Alors, qui a trouvé ces inscriptions?
Eh bien, elles ont été découvertes grâce à des fouilles conjointes qui ont été menées par l'Institut Kinneret et les autorités antiquités d'Israël. En fait, il y avait 17 inscriptions funéraires trouvées dans Zippori. La plupart d'entre elles sont en araméen, la lingua franca des Juifs de l'époque. La plupart de ces inscriptions de Tibériade étaient en grec.
Ah oui, j'imagine. Alors, ce qui suppose alors est qu'il y ait eu une présence romaine dans la région.
Ah oui, parce qu'il faut savoir que Zippori a été la capitale juive la plus densément peuplée de Galilée avant d'être supplantée par Tibériade. De plus, la ville est aujourd'hui célèbre pour ses magnifiques mosaïques.
Alors voilà, notre émission se termine sur cette note d'histoire. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Voilà, Radio Grand Ciel, et vous le retrouverez une autre fois. Et notre émission Bonjour Jérusalem, bien entendu, là. Bientôt. Au revoir.